This is Radio France International.
De Paris, RFI,
$1,000.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de Radio France Internationale. Ce soir, c'est avec vous Anya Stroganova de la rédaction russe.
Dobry vechor.
À propos de l'affaire Sacha Chokilenko, qui est en prison depuis plus d'un an et demi. L'occasion de s'attacher à toutes celles qui ont dénoncé la guerre en Ukraine. Pour la rédaction en ukrainien, Xenia Jornoklei.
Vitaю.
Pour nous parler de la manière dont les Ukrainiens s'intègrent sur le marché du travail en Europe. Et puis David Rowe de la rédaction en anglais sur l'augmentation des actes antisémites en France depuis qu'Israël s'en prend aux Palestiniens en représailles à l'attaque du Hamas. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est la guerre Hamas-Israël donc, et ce qui du coup la fait moins, c'est le conflit Ukraine-Russie. On sait qu'une actualité en chasse une autre, et de fait, le Proche-Orient a éclipsé le Caucase. Cela au grand dam de Volodymyr Zelensky, qui a toujours fait pour que le monde sache ce qui se passe et l'aide à combattre l'envahisseur russe, et au bénéfice de Vladimir Poutine, qui peut donc guerroyer plus discrètement. Xenia, ces événements en Israël détournent donc l'attention de la communauté internationale sur cette guerre en Ukraine.
Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas la première préoccupation des Ukrainiens en ce moment. La principale question est de savoir si les États-Unis et leurs partenaires occidentaux continueront à soutenir l'Ukraine en lui fournissant les armes comme l'ont fait par le passé. Jusqu'à présent, rien ne permet de dire que l'assistance à Israël se fera au détriment de l'assistance à l'Ukraine. Il s'agit donc de deux processus parallèles.
Alors justement, sur cette aide que les pays occidentaux fournissent depuis plus d'un an et demi maintenant, à Kiev, Anya ?
Oui, nous, à la rédaction russe, nous en avons parlé avec le politologue ukrainien Vladimir Fesenko, et pour lui aussi, il ne s'agit que de l'effet médiatique, donc cette éclipse n'est pas vraiment une sorte d'éclipse, parce que selon lui, politiquement, l'Ukraine reste au centre de l'attention de l'Occident. Je vous propose qu'on l'écoute.
Quelle est l'analyse de Vladimir Fesenko ?
Donc Vladimir Fesenko nous explique que sur le plan informationnel, bien sûr, les événements en Israël ont détourné l'attention du public de ce qui se passe en Ukraine, surtout dans les premiers jours après l'attaque du 7 octobre. Mais politiquement, selon lui, l'Ukraine reste la priorité absolue pour les États-Unis. Il nous rappelle que quelques jours après l'attaque du Hamas, le président Biden s'est adressé à la nation. Et ce genre d'adresse, ça n'arrive pas souvent. Et le thème principal de son intervention était justement le soutien et à l'Ukraine et à l'Israël. La Maison Blanche insiste pour soutenir à la fois l'Ukraine et l'Israël. Et d'après lui, la Maison Blanche fera pression pour que le soutien soit simultané, il le souligne, à la fois à l'Ukraine et à l'Israël, et que ce paquet d'aide soit commun. Donc il insiste sur le fait que l'Ukraine reste une priorité absolue pour les États-Unis parce que cela concerne ses intérêts nationaux et sa sécurité.
Et en ce qui concerne l'Union européenne, est-ce qu'on peut dire la même chose à son sujet concernant cette aide ?
Je voulais juste rappeler que l'Ukraine donc, a franchi un pas supplémentaire en vue de l'adhésion à l'Union européenne cette semaine. Ursula von der Leyen, qui est à la tête de la Commission européenne, a recommandé officiellement l'ouverture de négociations en ce sens. C'était le mercredi, le 8 novembre. Et Vladimir Fesenko nous parle justement de ce pas franchi et insiste que ça reste aussi important pour l'Union européenne que pour les États-Unis. Je vous propose qu'on écoute son analyse.
Anya Stroganova, aidez-nous à comprendre.
Il en va de même pour l'Union européenne, selon Vladimir Fesenko. Ce qui est envisagé aujourd'hui pour entamer les négociations sur l'adhésion à l'Union européenne ne concerne pas seulement l'Ukraine, c'est aussi une décision sur la politique d'élargissement qui concerne la Moldavie, la Géorgie, les pays des Balkans occidentaux, nous rappelle-t-il. Néanmoins, selon lui, l'Ukraine reste la principale force motrice de cette décision. Tous les projecteurs sont fixés sur l'Ukraine. Par ailleurs, il nous rappelle la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 qui s'est tenue cette semaine, au cours de laquelle l'Ukraine a été également l'un des principaux sujets abordés, au même titre que la situation au Moyen-Orient. L'Ukraine reste politiquement à l'ordre du jour, insiste-t-il. Et comme il nous explique, ce sujet ne peut pas tout simplement être clos car il est trop global dans ses conséquences et extrêmement important et pour les pays occidentaux, mais aussi bien sûr pour la situation sécuritaire en Europe. Une opinion similaire a été exprimée cette semaine par la ministre ukrainienne de l'économie Yulia Sviridenko au micro de Nathanaël Vitran le 8 novembre dernier. Je rappelle juste que Yulia Sviridenko était à Paris le même jour où l'Union européenne a...
On va l'écouter peut-être.
Oui, on va écouter sa réponse.
I would say that it rather controversial question. So because it's actually grounded on the hypothetical situation that is.
Que disait donc Yulia Sviridenko avant-hier sur l'antenne de Radio France Internationale?
Bon, elle est un peu plus prudente parce que c'est une ministre, donc elle peut pas se permettre d'être trop. Elle fait des déclarations assez prudentes. Elle dit que c'est une question controversée, que c'est difficile d'y répondre. Mais selon elle, l'escalade qui est en cours au Moyen-Orient est un problème majeur pour la communauté internationale. Ça ne facilite pas l'effort de guerre des Ukrainiens. Mais pour les Ukrainiens, il ne s'agit pas d'un choix qu'il y aurait à faire entre l'Ukraine et le Moyen-Orient. Donc il s'agit de soutenir à la fois le Moyen-Orient et soutenir l'Ukraine. Nous sommes persuadés, dit-elle, que le soutien de nos partenaires internationaux ne sera pas affecté parce qu'ils savent que pour l'Ukraine, c'est une guerre existentielle et que si l'Ukraine échoue, le prochain sur la liste sera la Pologne ou un autre pays européen.
Anya de la rédaction russe qui nous parle donc de ce que l'Ukraine pense. En retour, Xenia de la rédaction ukrainienne, vous allez nous parler de la Russie qui a un intérêt majeur dans cette affaire.
Oui, tout à fait. En plus de détourner l'attention de l'Ukraine, la Russie a également l'intérêt de créer une instabilité politique dans le monde et apporter un certain coup à la réputation américaine. Nous avons bien vu que la Russie souhaite coopérer avec le groupe Hamas pour gagner son influence dans la région. Et le Hamas est une organisation terroriste, mais cela n'a pas empêché les dirigeants du Kremlin de les rencontrer. En déstabilisant le Moyen-Orient, la Russie souhaite activer les forces d'opposition dans les pays occidentaux. Elle compte notamment sur la formation de groupes d'opposition qui s'opposent à la livraison d'armes à l'Ukraine. Ainsi, le Kremlin veut couper les approvisionnements de l'Ukraine pour réduire ses capacités de se défendre.
L'Ukraine s'était exprimée, rappelez-le-nous, une semaine après l'attaque du Hamas sur Israël, c'était donc le 7 octobre.
Oui, exactement. C'était dans le discours le 13 octobre que Mykhailo Podolyak, le conseiller du chef du cabinet du président ukrainien, a déclaré que, je cite, « le conflit en Israël n'affectera pas la livraison d'armes par les alliés de l'Ukraine ». La Russie s'attendait pourtant à ce que cette situation affaiblisse le soutien à l'Ukraine dans le monde. Selon Podolyak, avec l'émergence d'un nouveau conflit armé, la Russie tente de détourner l'attention de ses crimes de guerre. Et en effet, elle souhaite que l'Ukraine reçoive moins de soutien. Cependant, Podolyak, il a souligné qu'en raison de besoins militaires différents de l'Ukraine et d'Israël, les plans russes n'ont pas fonctionné.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette situation avec ce conflit Hamas-Israël qui chasse finalement du devant de l'actualité, du devant de l'actualité, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Voilà ce qu'on pouvait dire donc dans Accent du Monde, avec dans ce même studio une journaliste russe et une journaliste ukrainienne. C'est cela aussi la diversité et la richesse de Radio France Internationale.
C'est pas du vent.
L'état des mondes glaciaires et des hauts plateaux est préoccupant. Ils se réchauffent à une vitesse impressionnante, ce qui déstabilise les populations et l'ensemble des écosystèmes qui en dépendent. Des chercheurs et scientifiques du monde entier se retrouvent à l'occasion du One Polar Summit cette semaine à Paris pour partager leurs constats et propositions.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Tout à l'heure, à partir de 14h10 TU.
RFI.
Bienvenidos a este informativo de Radio France
International.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Et dans cette guerre Russie-Ukraine, il y a ceux qui fuient, ceux qui espèrent trouver une vie meilleure ailleurs, notamment en Europe. Xenia Djornoklé de la rédaction ukrainienne, intéressons-nous donc à la manière dont ces Ukrainiens s'intègrent sur le marché du travail européen. Aujourd'hui, il y a près de 4 700 000 Ukrainiens qui vivent en Europe. Alors, où est-ce qu'ils vivent avant tout ?
La plupart des Ukrainiens aujourd'hui sont en Pologne, c'est près de 2 millions. Et puis il y a l'Allemagne, c'est près d'un million. Et après, ils sont dispatchés entre les autres pays. En France, à ce jour, il y a près de 110 000 Ukrainiens.
Et ça, c'est lié à la guerre en Ukraine, où il y avait déjà une forte diaspora ukrainienne avant le début des combats.
Alors la plupart des gens, les 110 000, ce sont des Ukrainiens qui sont partis de l'Ukraine depuis la grande offensive russe. Mais avant cela, oui, exactement, la diaspora ukrainienne en France est assez importante. Il paraît que en région parisienne, il y a près de 150 000 Ukrainiens. Après, on ne peut pas savoir exactement parce qu'il y a toujours les gens qui étaient là sans papier, donc on ne peut pas les prendre en compte. Mais aujourd'hui, on dit qu'en France, il y a à peu près 400 000 Ukrainiens.
400 000 Ukrainiens en France. Comment expliquer cela ? Quels sont les facteurs en fait, de cette intégration accélérée ? Et puis vous nous direz si elle est réussie.
Je crois que l'intégration des Ukrainiens en Europe, elle est plutôt réussie. Et ça, c'est très important à souligner parce que les Ukrainiens qui arrivent en Europe, ils s'intègrent assez facilement, assez rapidement. Et c'est par l'insertion professionnelle que ça se passe. Et ça, c'est un facteur qui est très, très important. Et là-dessus, les Ukrainiens sont un peu différents d'autres groupes d'émigrés. Et d'ailleurs, les Ukrainiens ne se considèrent pas comme des réfugiés politiques ou à cause de la guerre. Ils ont un statut particulier. C'est un statut de protection temporelle qui était inventé par l'Europe. C'est un statut qui était prolongé jusqu'à mars 2025. Donc, en fait, après 3 ans de guerre, les Ukrainiens sont censés de rentrer chez eux. Ce n'est pas un statut de réfugié, ça veut dire que les gens ils sont là en tant que déplacés.
Sur cette intégration, donnez-nous quelques exemples plus précis concernant la Pologne.
D'accord. Déjà, il faut souligner qu'il y a 3 pays qui sont dans les tops de pays d'accueil pour les Ukrainiens et au niveau d'intégration. C'est la Pologne, le Royaume-Uni, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui est une grande destination pour les Ukrainiens à cause de l'anglais, parce que l'anglais, elle est quand même enseignée en Ukraine. Et puis, c'est la Suède. Les 3 pays, la Pologne, le Royaume-Uni et la Suède, occupent les 3 premières places du classement en fonction du nombre des Ukrainiens employés. Le niveau le plus bas a été enregistré en Suisse et en Italie, c'est à peu près 19%. Ainsi, 65% de personnes acceptées par la Pologne ont trouvé un emploi. Le deuxième chiffre le plus élevé, c'est 61% au Royaume-Uni et le troisième de 56% en Suède.
Et alors, la Pologne, j'y reviens, excusez-moi d'insister, mais la moitié des entreprises polonaises embauchent des travailleurs ukrainiens, c'est ça ?
Oui, tout à fait. La moitié aujourd'hui des entreprises en Pologne embauchent les Ukrainiens. Et il faut dire aussi que au premier semestre de cette année, on a constaté qu'il y avait près de 14 000 entreprises individuelles enregistrées en Pologne par les Ukrainiens. Ça veut dire que c'est à peu près chaque deuxième entreprise de ce type enregistrée en Pologne était enregistrée par un immigrant ukrainien.
Et vous avez interviewé là-dessus un spécialiste ?
Oui, tout à fait. Notre rédaction a parlé au téléphone avec le spécialiste. Il s'appelle Andriy Yeremenko. Il est sociologue et fondateur de la société de recherche Active Group.
Écoutons-le.
Oui.
пропоченіться для українця – це фетиш. Відповідно, коли це те, через що людина себе визначає.
La ligne n'était pas très bonne, mais
oui,
de toute façon, on ne parle pas ukrainien. Alors.
Oui, oui, tout à fait. C'était au téléphone. Donc, en fait, André Yeremenko explique que la rapidité avec laquelle les Ukrainiens trouvent un emploi à l'étranger par rapport aux autres migrants d'autres pays peut s'expliquer aussi par le fait que les Ukrainiens ont toujours voulu travailler. Pour eux, le travail fait partie de leur identité. Et ça, c'est très important.
Est-ce que les pays européens sont prêts à intégrer encore plus d'Ukrainiens ?
Effectivement, tout dépend du pays d'accueil et aussi on peut encore donner l'exemple de la Pologne. Et selon l'avis d'André Yeremenko, la Pologne perd la compétition pour les Ukrainiens et elle a toujours un besoin d'urgence de migrants. Il y a plusieurs raisons à ça. La principale est étonnamment simple. Les Polonais eux-mêmes partent pour l'Allemagne, par exemple, parce qu'ils trouvent plus d'argent. Et en conséquence, la Pologne perd à la fois de la main-d'œuvre et de recettes budgétaires. Il y a notamment une pénurie de travailleurs dans le secteur agricole. Donc je vous propose d'écouter André Yeremenko encore une fois.
Et là, quelle est son analyse ?
Donc l'expert explique qu'en Pologne, il s'est avéré que l'agriculture est très très inefficace et nécessite beaucoup de travailleurs. Cette inefficacité a été mise en évidence lors de scandales céréaliers, lorsqu'il s'est avéré que les agriculteurs ukrainiens travaillant sous les bombes, avec une logistique médiocre, produisaient des produits moins chers que les agriculteurs polonais sur le terrain.
Alors on a parlé des pays qui accueillent le plus d'Ukrainiens, à l'inverse, ils sont moins présents dans d'autres, vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure.
Oui, donc la Suisse et l'Italie affichent les taux d'emploi les plus bas pour les Ukrainiens. L'économie suisse n'est tout simplement pas conçue pour intégrer dans le marché du travail le nombre de personnes qui l'ont accueilli. Le gouvernement a donc décidé qu'il serait moins coûteux de donner de l'argent aux déplacés pour les inciter à rentrer chez eux. Après, il y a par exemple la République tchèque qui élabore également un programme similaire pour encourager les Ukrainiens de rentrer chez eux. Et le gouvernement prépare un amendement à la loi qui prévoit une assistance et le remboursement d'une partie de frais de retour. À son tour, l'Irlande, par exemple, n'est plus en mesure d'accueillir autant d'Ukrainiens qu'avant. Et c'est pourquoi ils sont même prêts à proposer aux Ukrainiens qui rentreront chez eux de continuer à bénéficier de l'aide sociale pendant un certain temps.
Merci à vous, Xenia Jean-Noclé, de la rédaction ukrainienne de RFI. Ce qui se passe à Gaza et en Israël, on en parlait il y a de cela un instant, cette riposte de Tzahal qui a tué environ 11 000 Palestiniens, dont 4 400 enfants, eh bien cela a un impact en France. David Roé, de la rédaction en anglais, les actes antisémites ont ainsi augmenté.
Donc oui, en effet, mais la France c'est la troisième plus grande population juive au monde après les États-Unis et Israël, soit 500 000 personnes au total. Les Juifs sont de plus en plus mal à l'aise en France depuis plusieurs années, depuis la première d'une série d'attaques visant les Juifs. En 2006, par exemple, un Juif, Ilan Halami, a été enlevé, torturé et assassiné par un gang qui pensait pouvoir obtenir de l'argent de sa famille. Il y a bien sûr en 2012 Mohamed Merah qui a attaqué une école juive à Toulouse. Et en 2015, lors des attentats de Charlie Hebdo, 4 personnes ont également tué dans un supermarché juif hyper cachère. En fait, depuis la deuxième intifada en 2000, dans l'année 2000 plutôt, le nombre d'attaques a augmenté, commises par des personnes faisant argument entre les Juifs et Israël. Cependant, ce qui se passe récemment est sans précédent.
Alors, ce qui se passe aujourd'hui est moins dramatique, hein, puisque là, vous parlez d'agression, de mort, mais il y a un certain nombre d'actes antisémitiques.
Oui, mais rien au cours du mois dernier, les autorités ont enregistré 1100 incidents antisémites. Attaques contre des personnes, dégradation des écoles juives ou synagogues, discours de haine en ligne, soit 3 fois plus qu'au cours de l'année 2022 en total. En réponse, l'extrême droite, par contre, a utilisé ces incidents et le conflit à Gaza pour renforcer son soutien aux Juifs, ce qui s'est produit depuis quelques années en fait. Si par le passé, l'antisémitisme a été largement associé à l'extrême droite, ce n'est pas le cas cette fois-ci. Nona Meyer est une chercheuse à Sciences Po et au CNRS. Elle a expliqué à Sarah Alsace dans notre podcast bimensuel Spotlight en France que si des traces d'antisémitisme peuvent encore être trouvées dans le parti du Rassemblement National lui-même, c'est le parti bien sûr de Marine Le Pen, sa dirigeante, Marine Le Pen en fait, elle n'est pas antisémite.
But she's different from her father. You see, it's another generation. Her party has not changed so much. Mm. Every time we do our surveys, we see that people who are voters or sympathizers of the...
Quelle est la liste de Nona Meyer? David?
Oui, mais ce qu'elle dit, en fait, c'est que dans ses recherches, elle constate que les électeurs du Rassemblement national sont les plus antisémites de tous, même si leur première cible sont les islamistes. Cependant, Marine Le Pen a eu des véritables confrontations avec son père contre son antisémitisme. Elle s'est battue contre lui d'une certaine manière, si bien qu'elle a finalement exclu du parti. Nous ne sommes pas contre les Juifs, dit-elle. Au contraire, elle dit que le Rassemblement national peut défendre les Juifs.
Et puis, il y a cette grande marche civique qui est prévue après-demain, à laquelle participera Elisabeth Borne. Cette grande marche se heurte au refus de la France insoumise d'en être. Et il y a d'ailleurs problème à gauche.
Oui, mais effectivement, le Rassemblement national, qui est une partie d'extrême droite, a déclaré qu'elle va participer à cette marche contre l'antisémitisme prévue pour ce dimanche par les présidents des deux chambres du Parlement. La grande marche civique est décrite comme une mobilisation générale face à la montée des actes antisémites en France. En fait, l'organisateur la décrivent comme un cri de conscience pour déclarer à la face du monde que la République française ne laisse pas la montée de l'antisémitisme.
L'antisémitisme a longtemps été le fait de l'extrême droite. Ce serait désormais le cas à l'opposé de l'échiquier politique, c'est-à-dire à gauche et surtout à l'extrême gauche.
Mais justement, il y a un problème pour l'extrême gauche parce que alors que les partis modérés de gauche ont déclaré qu'ils vont participer à ces marches, le parti d'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon a déclaré qu'ils ne vont pas y aller. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas participer à une marche à laquelle le Rassemblement national de Le Pen prend part. En fait, Mélenchon, qui est le chef de cette partie, est allé jusqu'à rejeter ce qu'il a décrit comme un rendez-vous des amis de soutien inconditionnel au massacre. Il parle bien sûr de Gaza.
Oui, et on va peut-être écouter Nona Meyer au micro de Sarah Alsace. Écoutons-la. Voilà.
Well, it's complicated because if you look at the extreme left, you see that even believing in the old stereotypes of Jews have money and power, it's lower on the left.
Donc c'était dans votre émission Spotlight sur la position de l'extrême gauche.
Oui, ils disent en fait que normalement il y a bien sûr de l'antisémitisme sur l'extrême droite. Cependant, le résultat est que les Juifs français sont devenus les cibles de la colère contre Israël. Parce que le contexte est tel que ce qu'ils ont dit le parti de Mélenchon, c'est en fait monter la colère contre eux.
Ok, on terminera avec ce sondage Odoxa paru dans le Figaro, qui dit que cette marche d'après-demain est soutenue par 69% des Français et même par 75% des sympathisants de la France insoumise, 70% du Rassemblement national. En tout cas, on verra cela et ce sera bien sûr à suivre sur Radio France Internationale ce dimanche. Nous en venons à la rédaction russe avec de la liberté d'opinion en Russie. Avant-hier, un procureur a requis 8 années de prison contre Alexandra Skotchilenko. À la fin de l'année dernière, cet artiste avait changé finalement les prix dans un supermarché à Saint-Pétersbourg. Elle avait mis des étiquettes avec des slogans anti-guerre. Anya Stroganova, vous êtes donc de la rédaction russe et vous avez suivi cette affaire. Dites-nous en plus sur cette militante.
Le cas d'Alexandra Skotchilenko, surnommée Sacha, est emblématique de la Russie d'aujourd'hui. Cette jeune femme de 33 ans est enfermée maintenant depuis plus d'un an et demi dans un centre de détention à Saint-Pétersbourg dans des conditions déplorables. Elle a été arrêtée en avril 2022 par la police et inculpée pour diffusion publique en connaissance de cause de fausses informations sur l'emploi des forces armées de la Fédération de Russie. En fait, c'est un article qui a été introduit au code pénal russe à la hâte en mars 2022 pour tenter d'empêcher toute critique de l'invasion russe de l'Ukraine. Sacha Skotchilenko, qui est artiste et musicien, a publié plusieurs ouvrages tirés de son vécu personnel sur la dépression et sur le trouble bipolaire. Son affaire a reçu un fort écho auprès du public. Il y a tout un comité de soutien qui s'est organisé autour d'elle et qui est très actif. Ses soutiens ainsi que plusieurs diplomates européens sont toujours présents lors de ses audiences parce que le procès contre elle a commencé en décembre 2022 et dure déjà donc depuis presque un an. Sacha Skotchilenko est atteinte de la maladie Celiac, c'est une maladie intestinale chronique et auto-immune qui est liée en fait à l'ingestion de gluten.
Et pour autant, ces ennuis de santé n'ont pas fait trembler le procureur.
Non, pas du tout. Le procureur a requis, comme vous l'avez déjà mentionné, 8 ans de prison contre elle. Il est très probable que dans les jours qui viennent, elle va être condamnée à 6, soit même à 8 ans de colonie pénitentiaire. Parce qu'on sait en fait qu'en Russie, dans ce genre d'affaires, les tribunaux suivent globalement l'avis du parquet et condamnent à des peines à peine plus basses que le parquet demande.
Et vous avez pu joindre la mère de Sacha Skotchilenko. Écoutons ce qu'elle vous a dit. Quelle est la teneur de son témoignage ?
Elle rappelle donc, que le procureur a demandé 8 ans de prison et ceci en tenant compte des circonstances atténuantes telles que son état de santé. Elle nous rappelle que Sacha n'a tué ni volé personne, elle n'a fait de mal à personne. Dans son affaire, il n'y a pas de partie civile, pas d'acte particulièrement dangereux, comme l'a dit le procureur lui-même. Elle nous rappelle aussi que l'expertise qui a servi de base à l'accusation a été refutée lors des audiences au tribunal, qu'il a été prouvé que cette expertise avait été réalisée en violation de la loi et commanditée par le juge d'instruction qui suit l'affaire de Sacha Skotchilenko. Mais ça n'a pas empêché au procureur de demander 8 ans de prison.
Mais vous nous dites qu'il n'a pas apporté un seul fait concret de culpabilité.
Non, pas du tout. Donc ça, mais aujourd'hui, comme vous l'imaginez, la justice russe ne se soucie pas de ce genre de détails.
Enfin, vous dites aujourd'hui, la Russie réprime depuis des années les voix critiques. Mais la répression s'est accélérée depuis l'invasion russe en Ukraine. Quelle est la proportion des femmes parmi les personnes détenues en Russie pour leur position contre la guerre ?
Oui, Philippe, la quasi-totalité des opposants d'envergure ont été emprisonnés ou poussés à l'exil. Après, on a des milliers de Russes ordinaires qui ont été poursuivis et condamnés à des amendes ou des peines de prison pour avoir manifesté leur désaccord avec le pouvoir. Selon OVD Info, une ONG russe qui fait le décompte des personnes persécutées, aujourd'hui 46% parmi elles sont des femmes. C'est donc presque la moitié et c'est aussi un chiffre qui n'a cessé d'augmenter depuis ces dernières années. Par exemple, en 2021, les femmes n'étaient que entre 25 et 31% qui ont été arrêtés lors des manifestations en soutien à Alexei Navalny. Aujourd'hui, on parle donc de la moitié à peu près.
Et pour celles qui sont contre la guerre ?
Et pour celles qui sont contre, donc si on parle des personnes emprisonnées, c'est assez compliqué de faire le décompte. Il n'y a pas de chiffres, je l'ai fait manuellement. Donc on a à peu près peut-être une vingtaine de femmes emprisonnées sur 200 personnes. Et pour ne citer que quelques cas emblématiques, je nommerais aussi Maria Ponomarenko, une journaliste à Barnaoul, en Sibérie occidentale, qui a été condamnée à 6 ans d'emprisonnement. Et il y a une nouvelle affaire pénale en cours contre elle.
Et puis Victoria Petrova,
Victoria Petrova, 29 ans, citoyenne ordinaire, donc ni journaliste ni activiste, juste quelqu'un qui a publié des messages contre la guerre sur son compte contacté, donc c'est l'équivalent de Facebook russe. Elle n'a pas encore été jugée, mais elle risque 10 ans de prison et elle est emprisonnée déjà depuis plus d'un an et demi.
Son procès n'a pas encore commencé, mais bien évidemment la rédaction russe de RFI suivra ce procès. C'était Accent du Monde, à retrouver bien évidemment sur le site internet de Radio France Internationale.